Vous écoutez
RMC.
Minuit 44 en France, 18h44 ici dans le studio new-yorkais de l'After, et un but a été marqué dans le match Croatie-Ghana. Clément.
Le but pour les Croates avec à la passe décisive l'increvable Luka Modric sur corner pour déposer ce ballon sur la tête du joueur du Torino Vlasic. Poteau rentrant avec encore une fois une très très belle précision. Il n'a rien pu faire à Sarré, le portier des Black Stars, qui avait sorti une magnifique parade quelques secondes avant sur une frappe de Pasalic. Cette fois il est battu, les Croates reprennent les devants de Buzyn dans cette rencontre et reprennent également la deuxième place.
Voilà, et le Ghana serait qualifié au titre des meilleurs troisièmes également. Si on en reste là, les Anglais mènent 2-0 face aux Panaméens.
Oui, 4 minutes à jouer encore. Les buteurs Bellingham et Harry Kane, ils sont sortis tous les deux désormais. C'est Ollie Watkins, pardon, qui est entré. Pas Ivan Tony, Ollie Watkins. Et Berici Eze. Jordan Anderson également, qui a remplacé Elliot Anderson. La frappe des Berici Eze, c'est contré par les Panaméens. Jet Payne, qui va redonner le ballon à Eze à l'entrée de la surface de réparation. C'est compliqué, c'est dégagé par les Panaméens. Pas pour longtemps. Marcus Rashford à l'entrée. Là, il est arrêté. Il va falloir avoir un gros coup de rein s'il veut se mettre en position de frappe. Il va donner en retrait à Jordan Anderson. On va faire tourner le ballon, 2-0 pour les Anglais. 3 minutes 30 encore à jouer dans le temps réglementaire, et sur chaque annonce début croate, le stade de New York et notamment les Anglais ne sont pas contents visiblement, supporters donc du Ghana. Il y a peut-être un petit lien. Attention, Marcus Rashford encore une fois sur le côté gauche de la surface de réparation, il se remet dans l'axe, il va frapper, il tricote énormément, ça va retourner à droite désormais de la surface de réparation. Allez, 2-0 pour l'Angleterre.
2-0 pour l'Angleterre et 2-1 pour la Croatie face au Ghana. Bielsa, donc la nuit dernière, l'Uruguay sorti de façon incroyablement nulle de la Coupe du Monde. Les Uruguayens avec un Marcelo Bielsa qui pète un plomb après le match. On va peut-être pouvoir l'écouter d'ailleurs. Non, on ne va pas l'écouter. Bon, enfin bon, il y a une interview d'après-match que vous retrouvez sur rmcsport.fr qui est assez dingue. Avant le match, il avait déjà à peu près tout l'Uruguay contre lui, les anciens joueurs, pas mal de joueurs actuels, et l'ambiance était pourrie. On a même des éditorialistes qui appelaient les joueurs à tourner le dos à Bielsa avant le match contre l'Espagne, en disant qu'il reste au placard, disaient certains éditorialistes. Le moment est venu pour les joueurs de tourner le dos à l'entraîneur et de jouer comme ils devraient jouer, comme nous l'avons toujours fait, disaient les éditorialistes uruguayens. Avec les consignes du sélectionneur, nous avons été l'une des pires équipes du tournoi. C'est très pénible de voir l'Uruguay jouer comme ça. Et puis, bon, bah, le match est arrivé. Il faut dire que ce qui s'est passé leur a pas donné tort. Le pauvre Muslera, qui ne jouait plus. Hein. Muslera, c'est Bielsa qui l'a remis titulaire il y a quelques semaines, alors qu'il n'était plus titulaire en équipe nationale, lui qui est un peu le gardien historique de l'Uruguay depuis en gros 15-20 ans. Évidemment, il a été mauvais pendant toute la Coupe du Monde. Bielsa, après le match, dit bah oui, c'est moi qui l'ai choisi, hein, donc c'est moi qui dois être blâmé. Muslera, à la mi-temps du match contre l'Espagne, a demandé lui-même à sortir. C'est pas Bielsa qui l'a sorti, c'est Muslera qui a dit sortez-moi, je suis nul, en gros. Derrière, Valverde, qui était un des leaders de la fronde anti-Bielsa, a été sorti à la 60e. Bon, si vous avez vu le match, vous avez vu la tronche qui tirait. En gros, il n'était pas content du tout. Bielsa dit oui, mais moi je voulais mettre plus d'impact en attaque à ce moment-là. Bref, il n'y a plus rien qui va. Est-ce le crépuscule de Bielsa, les gars?
Bon, déjà, le factuel, c'est que ce qui se dit sur cette sélection uruguayenne, à mon sens, est très exagéré. Parce que en fait, l'Uruguay ne passe pas et ne sort pas de la poule juste parce que sur deux matchs ils se sont fait saigner par leur gardien. Contre le Cap-Vert, cette sortie rocambolesque, totalement insensée, leur coûte la victoire et donc 3 points. Et ils auraient déjà été quasi qualifiés à ce moment-là. Et hier, moi j'aimerais bien qu'on me dise l'équipe favorite du tournoi à l'Espagne. J'aimerais bien qu'on me dise ce qu'elle a produit dans ce match. Parce que les Espagnols, je les ai vus vraiment moyens hier. Et sur une frappe anodine, c'est encore ce pauvre Muslera qui a crevé l'Uruguay. Et avec un match nul, l'Uruguay aurait probablement été qualifié. Ça, c'est le factuel. Le factuel, c'est que dans le jeu, dans les matchs que j'ai vus de l'Uruguay, moi, je ne les ai pas trouvés plus nuls qu'une tonne d'équipes qui vont se qualifier pour la 16e de finale. Après, l'autre débat, c'est Bielsa et ce qui est passé en Uruguay. Ça, le rapport de Bielsa avec l'Uruguay et savoir si cet entraîneur, avec ses principes de jeu, était fait pour la tradition uruguayenne et pour l'histoire du jeu, de la façon de voir le football dans ce pays, ça c'est une autre histoire. Ça c'est encore autre chose qui, je vais presque envie de dire, les regarde. le choix qu'ils ont fait, comment, pourquoi. Et pour répondre à la question du crépuscule, ça fait bien longtemps, de toute façon, que Bielsa est ailleurs. Et en plus, je crois qu'on s'est toujours trompé sur ce qu'était Bielsa. Bielsa, c'est pas un entraîneur pour gagner. Bielsa, c'est un peu Maître Yoda. C'est l'entraîneur qui, par ses idées et ses principes, a pendant des années, bien plus que maintenant où il est vieux, en plus il est, c'est un peu un savant fou, bon, il est plus vraiment dans notre monde et tout ça, a inspiré énormément d'entraîneurs qui aujourd'hui, je pense que vous ne ferez jamais dire du mal de Bielsa ni à Guardiola, ni à Luis Enrique.
En but pour le Panama!
Et non, hors jeu, Gilbert. Ah, c'est pour ça que je vous ai pas coupé. Hors jeu, a priori, bon, à confirmer, mais ça ferait 2-1 de toute façon pour l'Angleterre.
Donc, vous ne trouverez pas un grand entraîneur aujourd'hui qui dira du mal de Bielsa, parce que c'est une sorte de maître, un peu comme le maître d'école qui arrive avec ses livres et ses grands principes et ses idées sur le jeu et sur le foot. Mais ça ne veut pas dire que lui-même, de par son caractère, parce qu'on l'a vu dans toutes ses expériences, réussit toujours à les mettre en application. Il y a parfois, il crée des bons moments, il crée des belles histoires, des belles rencontres, et parfois, il crée des catastrophes et des drames parce que les mecs ne veulent pas marcher avec lui, parce que sa rigidité fait que ça colle pas. C'est pas un entraîneur moderne. Je pense pas que ce soit un entraîneur fait pour les joueurs actuels, dans la façon qu'ils ont d'être. J'ai du mal à voir comment ça peut coller, effectivement. Mais faut pas qu'on se méprenne ou qu'on se trompe sur ce qu'il est. Lui, c'est la vedette. Beaucoup dans le film, c'est Obi-Wan, Skywalker, machin. Lui, c'est Maître Yoda, lui. Voilà. C'est je donne la leçon, les machins, les grands principes, et après vous faites. Et il a été copié et il a inspiré une tonne d'entraîneurs. Maintenant qu'il soit dépassé et fini, oui, je pense qu'aujourd'hui. Mais c'est un peu comme Ralf Rangnick quelque part. C'est un gars, Ralf Rangnick. Quand tu regardes ses équipes,
c'est un peu comme Mourinho, malheureusement.
Elles sont pas.
Plutôt que Ralf Rangnick.
Non, mais Rangnick aussi, c'est l'homme des grands principes, l'homme du livre,
l'homme
de la pensée et tout.
Mais
ses équipes sont souvent moins belles que celles des entraîneurs qu'il a inspirés.
Oui,
tu vois, c'est souvent ça. Donc, ça n'a rien à voir avec Mourinho. Mourinho, ce serait plutôt est-il dépassé ou non par rapport au football actuel. Peut-être qu'il va même réussir à écrire une nouvelle page avec
je ne sais pas.
En tout cas, pour Bielsa, c'est mon avis.
Ouais, non, mais t'as plutôt bien décrit la situation. Après, le problème, c'est que moi, j'aime beaucoup les discours de Marcelo Bielsa sur le foot et même hors football, hors sport, parce que c'est un vrai philosophe et il a une démarche et une réflexion qui est vraiment intéressante. Par contre, avec la sélection uruguayenne, oui, je les ai vus les matchs. Moi, pour moi, ils ont une très belle équipe et ils auraient très bien pu se qualifier. Maintenant, hier, ils sont quand même en dessous de l'Espagne. Ils ont moins d'occasions, ils ont moins d'expected goals, ils ont quand même moins de possessions. À un moment, je crois qu'à la mi-temps, il y a 80-20 pour l'Espagne quand même. Donc, Marcelo Bielsa ou pas, ça restait un match compliqué. Mais après, aujourd'hui, quand même, Daniel, et d'ailleurs, Daniel, tu le dis souvent.
Tu as aimé le match de l'Espagne hier?
J'ai pas dit que j'ai aimé, j'ai dit qu'ils ont quand même été meilleurs que l'Uruguay.
Ah bah oui, ça oui, mais franchement, l'Espagne hier, c'était pas brillant. Hein.
Et puis ce gardien, c'est lui qui l'a choisi, et surtout aujourd'hui.
Et ça, c'est une erreur. Parce que Muslera les a crevés.
Aujourd'hui, sans management et sans, et je vais aller même plus loin, même si je connais pas la personne, mais sans intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, tu peux pas y arriver.
Mais c'est ce qu'on répète tout le temps.
Tu peux pas y arriver.
Et quand je le dis, on me dit tout est tactique, tout est ceci.
Non, mais toi, tu dis que c'est que management.
Je te dis que c'est du 80-20.
Non. Pour moi, il faut avoir il faut avoir tout. Aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure.
Oui, il faut avoir tout, bien sûr.
C'est comme un grand film, il faut avoir un peu de tout. C'est comme une grande recette.
Et aujourd'hui, lui,
du sel, du poivre,
lui,
du piment,
et lui, il lui manque des éléments beaucoup trop importants. Voilà. Lui, il lui manque beaucoup trop de choses.
Une grande recette.
Il est d'un autre temps.
Voilà, une grande recette, il faut avoir du poivre, du sel, de l'acidité, du piment, il faut que ce soit relevé mais pas trop. Et le problème, c'est que Marcelo
Bielsa,
c'est que du piment quoi. C'est que du piment, il y a pas du minimum de management.
Mais même à la limite, il y a un peu, tu sais, comme un prêtre, un peu, comme le maître d'une secte, où en fait, soit il est suivi par les joueurs de façon quasi religieuse, et auquel cas, il n'a pas besoin d'expliquer. C'est en gros, il y a les grands principes, comme le livre saint, et puis ça marche parce que les mecs sont réceptifs. Il a eu des aventures, les débuts du Chili, on sait comment ça s'est passé. Mais sinon, s'il y a un caractère en face de lui, s'il y a du management à créer, là souvent c'est catastrophique. Ça part en vrac.
Il y a une anecdote en plus que je vous ai pas dit. Donc les joueurs étaient en fronde contre lui, donc ils sont allés le voir en lui disant on n'est pas content, on veut jouer différemment. Donc lui il a dit ok, très bien, réunion. Il a parlé pendant 50 minutes. Ça a tellement saoulé les joueurs qu'il y en a qui sont partis au milieu, dont Valverde.
Ah oui. Non, mais ça c'est sûr. Après, Valverde est un type très, très, très particulier. Attention.
Il est toujours dans les sales coups, lui, non?
Il est toujours dans les sales coups.
C'est pas sa saison.
Ouais. Non, il est vraiment toujours dans les seuls.
Tchouaméni avec le Real,
Mais il y avait aussi Xabi Alonso.
Il a fait partie de la bande qui ont saigné Xabi Alonso aussi.
Du coup, il y avait Vinicius et Bellingham ou pas?
Aussi.
Ou, les deux ou juste Bellingham?
Ah non, Vinicius, il était dedans aussi.
Ok.
Bien sûr.
Et alors, il paraît que la fédération uruguayenne a annulé les vols retour. Il a dit.
Ça me déplaît pas, c'est une bonne méthode.
Vous débrouillez pour rentrer.
Parce qu'après, il reste encore quelque chose pour le cas de l'Uruguay, c'est que. Bon, ça peut ne pas marcher avec ton sélectionneur, tu lui en veux, ça colle pas, machin et tout. Quand tu représentes ton pays, tu dois être capable de mettre un petit peu à part et dire, écoute, le sélectionneur, ça va, mais nous, sur le terrain, on va vraiment se donner.
Franchement, là, c'est dur.
Mais l'Uruguay, sur la deuxième mi-temps hier, moi, je trouve qu'il donne, c'est désordonné, mais il donne tout, hein.
Ouais, mais il peut pas.
Ils y vont, en termes de détermination.
Il peut pas sortir Valverde, il y a des choses quand même. Ok, on aime pas, le gars, il est peut-être à claque, mais tu sens pas Valverde à la 60e.
Je suis d'accord.
Ou alors, tu te qualifies derrière, quoi.
Ouais, je suis d'accord.
Fini pour l'Angleterre.
Un petit point sur les. Ouais, bon. C'est fini. Entre l'Angleterre et le Panama, Aurélien.
Allez, strict minimum ou peut-être un peu plus, l'Angleterre qui bat le Panama 2-0 grâce à Jude Bellingham et Harry Kane en deuxième période. L'Angleterre compte 7 points, termine donc première du groupe L et voyagera à Atlanta pour affronter un troisième de groupe, potentiellement et probablement le Sénégal, mais ça faudra encore attendre un petit peu. Et puis les Panaméens, ça fait 6 matchs de Coupe du Monde dans son histoire, 6 défaites, mais ils n'ont pas été ridicules.
Et pour finir sur Bielsa, il a eu cette déclaration après le match. Il a dit, écoutez, c'est très simple, je vais être direct, tout apport d'un sélectionneur qui travaille depuis 3 ans ne compte pas si on n'obtient pas de résultat.
Il a raison.
Donc on a été 4e de la phase de qualif, ça vaut rien. 3e de la Copa América, ça vaut rien. Et on est éliminé ici, ça vaut rien.
Du coup, il s'en va.
Lui, il se cache pas sur son bilan.
Au moins, il a une capacité d'auto-analyse assez bonne.
Et je suis pas sûr qu'il retrouve un poste. Hein.
On est
au bout de l'histoire.
Ouais, là, je pense que là,
on est au bout de l'histoire.
On est dans le temps additionnel de Croatie-Ghana. Quelques infos avant la fin du match. Vous dire déjà que dans le match Uruguay-Espagne, il y a eu de la casse côté espagnol avec Jérémy Pino qui souffre d'une entorse acromio-claviculaire et Nico Williams touché à l'adducteur droit. Donc pour l'instant, on ne sait pas.
Bah, Nico Williams, il est en phase de disparition totale depuis.
Ouais. Il a bien fait
bien trop longtemps.
Il a bien fait de pas aller au Barça, lui. C'était un bon choix.
Ouais, mais. Enfin bon, attention, l'Espagne, je trouve pas dingue du tout. Hein. Il paraît que c'est les grands favoris de la compète.
Si les Pays-Bas ils battent le Maroc, va falloir les arrêter.
Qui?
Les Pays-Bas. S'ils arrivent à battre le Maroc,
devant ces Hollandais. Là.
Il est parti sur les Hollandais.
Il était à fond sur Curaçao déjà.
Curaçao.
Ça y est, il est parti.
Attention les Pays-Bas.
Et puis alors.
J'ai failli acheter un maillot de Bergkamp aujourd'hui, Daniel.
Je vais juste vous raconter ce qui s'est passé en Équateur.
Trop cher.
Il y a plus beaucoup ces joueurs-là. Hein.
L'Équateur a battu l'Allemagne, vous le savez, il y a maintenant 48 heures en toute fin de match. Oui. Une belle performance. Oui. Ben, le président de la République en Équateur, il a dit on a gagné demain, jour férié pour tout le monde.
Ah ouais, ça lui a coûté de l'oseille par contre.
Voilà. Alors je ne sais pas si en France ça peut exister. Là, tu bats la Suède en 16e mardi.
On va peut-être éviter les jours
fériés. Mercredi, jour férié pour tout le monde.
Mais moi, j'aimerais pas.
Bon, voilà. À suivre, bien sûr. La fin de Croatie-Ghana tout de suite, Clément Brossard.
Il y a encore un peu de suspense, mine de rien, dans cette rencontre. Il reste 40 secondes à jouer, 2 buts 1 pour les Croates. Début de Susic et de Vlasic, dont un il y a de cela 10 minutes. Et c'est Lukasen pour son premier match en Coupe du Monde qui a marqué pour les Ghanéens. Et le dernier ballon sera peut-être pour les Black Stars. On cherchait Thomas Hansant devant et la récupération sur le côté droit du Lyonnais. Et Ernest Nuama, c'était lui qui a donné le coup franc à son coéquipier Lukasen pour le but ghanéen avec Semenyo sur le côté gauche. L'accélération, la frappe forte, ça va partir derrière la cage de Livakovic et la Croatie qui va certainement s'imposer et terminer deuxième de ce groupe là pour aller affronter en 16e de finale soit la Colombie soit le Portugal. Ce sera un cran au-dessus parce que ces Ghanéens en première période, alors là, ils n'ont rien montré, la deuxième c'était un petit peu mieux, mais c'est quand même poussif par rapport au potentiel, parce qu'il faut souligner quand même qu'il y a un bon potentiel offensif pour le Ghana avec des joueurs comme Nouama, on en a parlé, comme Souleymane Al d'Atalanta Bergame. On a aussi Semenyo évidemment de Manchester City, donc il y a mieux à faire sur le plan offensif. Il se montrerait peut-être à leur avantage en 16e de finale, mais c'en est terminé en tout cas pour cette phase de poule. Les Ghanéens qui se qualifient en tant que 3e et la Croatie avec cette victoire de 2-1 termine 2e de son groupe.